C'est une déclaration que Gandhi a faite dans son discours d'adieu, alors qu'il quittait l'Afrique du Sud en 1914 et qu'il se préparait à rentrer en Inde. Il a dit ceci: j'ai appris durant toutes ces années à aimer Johannesburg, même s'il s'agissait d'un camp minier. C'est à Johannesburg que j'ai rencontré mes amis les plus chers. C'est à Johannesburg que les bases de la grande lutte de la résistance passive ont été posées en septembre 1906. Johannesburg restera donc comme un souvenir sacré que Madame Gandhi et moi rapporterons avec nous en Inde. Pour moi, habitant de Johannesburg, ces mots sont merveilleux.
Si loin, si proche, le magazine des voyages. Julien Magoharou, Vladimir Cagnolari.
Bonjour à tous, et oui, vous l'avez entendu, il y a des habitants de Johannesburg qui sont fiers. Un jour, leur ville a accueilli le jeune Gandhi. Oui, oui, Mohandas Gandhi, celui qui fit plier les Britanniques, ouvrit la voie à l'indépendance de l'Inde et surtout qui légua au monde entier une immense leçon de dignité et de paix. Ce sont ces traces qu'on va suivre ensemble aujourd'hui. Pas en Inde, mais en Afrique du Sud. Oui, car le pays n'a pas été une simple escale pour ce jeune Indien de bonne famille. Il a aussi servi de creuset à sa révolution personnelle et de laboratoire à la résistance passive, cette manière non violente de réclamer justice par la force obstinée de la vérité. Alors oui, ils peuvent être fiers, les habitants de Johannesburg. Eric Itzkin, qu'on vient d'entendre, en est si fier qu'il a même écrit un livre qui raconte le Johannesburg de Gandhi. Il a donné rendez-vous à Cyriel Bédou, en plein quartier des affaires, à Gandhi Square, sous la statue d'un jeune homme en robe d'avocat. Mohandas Gandhi, bien avant qu'il ne devienne la grande âme, le Mahatma.
Quand Gandhi était à Johannesburg, il était connu comme avocat et comme militant politique. C'est dans l'endroit où nous sommes actuellement qu'il exerçait le métier d'avocat, en défendant son peuple au tribunal contre les lois discriminatoires. Il s'est fait connaître ici comme cela. Il est devenu un avocat brillant et c'est à cette période qu'il commence son chemin de leader, d'activiste et de philosophe à plein temps.
Alors, c'est vrai que cette place, maintenant, c'est une place d'affaires. Il y a beaucoup de gratte-ciel, il y a des grands magasins, il y a des chaînes de restaurants, il y a des fast-food.
Ce site a une grande signification historique. C'est ici que se trouvaient les tribunaux, là où l'injustice triomphait et parfois était défiée. Tout d'abord, c'était un site de pouvoir pour le régime colonial au début du XXe siècle. Plus tard, c'est devenu une station d'autobus sous l'apartheid, où l'on trouvait des bus uniquement destinés aux Blancs. Je pense que Gandhi serait d'ailleurs très heureux de voir un système de transport en commun sans ségrégation, parce que cela n'existait pas de son temps, ce qui était source de mécontentement et de protestation.
Durban, province sud-africaine du KwaZulu-Natal au bord de l'océan Indien. C'est là que débarque Gandhi en 1893, comme tant d'autres de ses compatriotes indiens. Aujourd'hui encore, les Sud-Africains d'origine indienne sont très nombreux à Durban, en particulier à Chatsworth, une des banlieues de la ville où ils furent parqués dans les années 60, aux heures les plus sombres de l'apartheid. À Chatsworth, dans l'hôtel Savera, il y a un petit musée qui retrace l'histoire de l'immigration indienne en Afrique du Sud. Robbie Naidoo fait partie des fondateurs du musée et c'est donc lui qui le fait visiter à Cyriel Bédou.
Au début du 19e siècle, les Anglais ont interdit la traite des esclaves. Après l'abolition, le gouvernement britannique a eu l'idée, tout à fait cynique, je dois dire, de trouver une solution de rechange à l'esclavage. Ce fut le système des travailleurs engagés. Ils allaient dans les grandes villes indiennes recruter des Indiens qu'ils envoyaient dans les autres colonies britanniques en leur faisant miroiter une vie meilleure. Ici, les travailleurs africains se rebellaient et refusaient de travailler dans les piètres conditions qu'on leur imposait. En 1860, ils commencèrent donc à acheminer les Indiens par bateau jusqu'ici.
Le premier bateau d'Indiens est arrivé ici en 1860 et vous avez des panneaux qui racontent cette arrivée. Est-ce qu'on peut les regarder ?
La salle SS Truro, vers laquelle on se dirige maintenant, est consacrée à ces bateaux qui ont transporté les Indiens en Afrique du Sud. Je vous y emmène.
Alors là, on va passer la réception pour aller dans la salle qui s'appelle SS Truro, qui est en fait la salle à manger de l'hôtel. Et sur les murs de cette salle à manger, on a plein d'explications sur la venue des premiers Indiens en Afrique du Sud.
Le SS Truro, c'est le bateau qui a convoyé les premiers travailleurs engagés indiens en Afrique du Sud. C'était un bateau à vapeur avec une roue à aubes et il est arrivé le 16 novembre 1860 ici à Durban, qui s'appelait Port Natal à l'époque. Le bateau avait quitté Madras, qu'on appelle aujourd'hui Chennai, dans le golfe du Bengale, avec 342 Indiens à bord. Ils avaient été recrutés à Madras et à Calcutta, et les Anglais leur avaient promis du confort, de bons logements, de la nourriture en quantité, un bon salaire, etc.
It was a completely different story. The English lied to them about the conditions and ill-treated them.
Mais une fois arrivés, ils se rendirent compte que c'était une imposture, que les Anglais leur avaient menti et qu'ils les maltraitaient. Les Indiens travaillaient du matin au soir pour un salaire de misère. Bref, c'était juste un esclavage qui ne disait pas son nom. Si bien que le gouvernement colonial de l'Inde a interdit l'exportation de main-d'œuvre indienne en Afrique du Sud.
C'était quand ?
C'était en 1911.
Et au total, à peu près combien d'Indiens sont venus en Afrique du Sud via ces bateaux ?
Environ 152 000 travailleurs indiens engagés de cette façon arrivèrent ici en Afrique du Sud. Beaucoup quittèrent les champs de canne une fois le contrat terminé et ils travaillèrent dans différents domaines. L'immense majorité donc resta ici et forma la base de la population sud-africaine d'origine indienne, qu'on estime aujourd'hui à 2,5 millions de personnes.
Gandhi est arrivé à Durban en mai 1893, mais avant tout, je crois qu'il faut bien comprendre pourquoi il est venu. D'abord, d'après ses propres mots, il était un piètre avocat. Il avait ouvert son premier cabinet d'avocat à Mumbai, autrefois Bombay. Et il raconte comment, lors de sa première audience, il avait dû fuir la salle tant il avait peur de parler en public.
Et tout ça s'est passé en Inde après qu'il ait étudié le droit à Londres.
That's correct, yes.
Et donc, après son échec, Gandhi rentre à Rajkot, là où vit son frère. Là-bas, il entend parler de quelqu'un qui cherche un avocat indien qui pourrait résoudre un litige familial entre un businessman indien de Durban et sa famille à Pretoria. L'homme d'affaires s'appelait Abdullah Sheikh, communément appelé Dada Abdullah, et c'était l'un des riches businessmen de la communauté indienne d'Afrique du Sud. On offrait donc à Gandhi l'occasion de partir en Afrique du Sud pour un an, et il sauta dessus en se disant que ce serait pour lui un nouveau départ.
Alors il a quitté ses enfants et sa femme qui étaient en Inde pour venir en Afrique du Sud en espérant avoir une vie meilleure.
L'affaire devait être jugée à Pretoria et donc Abdullah Sheikh réserva pour Gandhi un ticket de train en première classe. Mais à cette époque, ceux qui n'étaient pas blancs n'étaient pas admis en première classe.
David Gangan est sud-africain d'origine indienne et vit à Pietermaritzburg, une ville située sur la voie de chemin de fer qui relie Durban à Johannesburg. Il est le président du comité qui veille sur la mémoire du passage de Gandhi ici. Oui, car la gare se souvient très bien de lui. Et vous allez l'entendre, c'est réciproque. Gandhi s'est lui aussi longtemps souvenu de Pietermaritzburg.
Gandhi prit le train la nuit du 7 juin en Afrique du Sud. C'est en plein hiver et quand le train s'arrêta ici, un passager blanc monta dans le compartiment. Quand il vit Gandhi, il alla chercher le contrôleur, lequel demanda à Gandhi son ticket et le pria d'aller s'asseoir en troisième classe. Gandhi répondit qu'il avait un ticket de première, donc hors de question qu'il bouge.
Tu peux nous dire ce que tu fais dans ce wagon, Kouli ?
Mais j'ai un billet. Un billet de première classe.
Espèce de sale cafre. Virez-le.
Deux contrôleurs arrivèrent et le jetèrent dehors, littéralement, sur le quai. Gandhi était stupéfait. De classe moyenne, il faisait partie des élites et en Inde, il voyageait toujours en première classe. Même à Londres, quand il était étudiant, il était respecté et n'avait jamais vécu une chose pareille. Alors, quand le matin fut venu, il envoya un télégramme à la direction de la compagnie des chemins de fer pour protester et ce fut sa première lettre de protestation.
D'autres lettres de protestation viendront dans le parcours de Gandhi en Afrique du Sud.
C'est vrai, on a un nombre incroyable de lettres et d'écrits qui occupent une centaine de volumes. Et ces 100 volumes, le gouvernement indien les a donnés à notre comité pour que nous les hébergions ici dans notre bibliothèque publique qui a maintenant un endroit baptisé le coin Gandhi. Et si vous vous retournez, toute cette partie de la ville était occupée par des populations d'origine indienne. C'était une ville typiquement régie par les principes de la ségrégation. Des hommes d'affaires indiens qui habitaient le coin sont venus le voir et il comprit alors que ce qu'il venait de vivre n'était qu'un petit incident comparé aux innombrables faits de discrimination dont souffrait la communauté indienne, que ce soit dans les affaires, les permis, les autorisations, les endroits où ils avaient le droit d'habiter et tout ce genre de choses. Gandhi repartit le soir par le train et en troisième classe.
Le train from Durban to Pietermaritzburg.
Le train qu'a pris Gandhi existe toujours, mais il ne passe plus qu'une fois par jour.
Alors là, on est dans le hall donc, de la gare. La gare est complètement vide et on a juste des bancs autour de la pièce pour que les gens puissent s'asseoir. Et on a une plaque juste sur le mur qui est à gauche où il y est rappelé l'histoire qu'a vécu Gandhi dans cette gare. On va suivre M. Gangan qui nous emmène sur le quai où tout s'est passé. Donc en effet, il y a un petit monument qui est posé sur le quai de la gare et il y a écrit « Cette plaque rend hommage à Monsieur Mohandas Gandhi qui a été jeté du compartiment de la première classe d'un train le 7 juin 1893. Cet incident a changé le cours de sa vie. »
Oui, là où nous nous tenons en ce moment, c'est là qu'était le quai à l'époque. Et c'est ici qu'il a dû se faire expulser du train. L'endroit a reçu la visite du Premier ministre indien, accompagné de son prédécesseur et de deux anciens présidents indiens. On avait organisé pour eux un voyage spécial dans un train à vapeur d'époque. On leur a fait revivre les dernières 20 minutes du voyage de Gandhi et ça a été très émouvant. Où que vous viviez, si vous êtes d'origine indienne et que vous arrivez en Afrique du Sud, il faut vous arrêter à Pietermaritzburg.
Stimela, c'est cette chanson de Hugh Masekela et c'est le nom que les Zoulous donnèrent au train à vapeur qui les menait à Egoli, la ville de l'or, autrement dit Johannesburg. C'est en train aussi que Gandhi arrive là-bas. Après avoir réglé le litige familial qui l'avait amené, il retourne à Durban, où il se fait un nom comme avocat. Et puis, au tout début du XXe siècle, il s'installe à Johannesburg pour défendre les Indiens contre les discriminations et vexations dont ils sont victimes. Bien vite, son combat devient politique. Le livre « Gandhi's Johannesburg » d'Eric Iskin recense les lieux où son engagement s'est affirmé. Et la mosquée Hamidiya y occupe une place de choix.
On est donc dans le quartier Fordburg, qui est un quartier majoritairement indien à Johannesburg, où il y a des magasins de vêtements indiens, on peut voir des restaurants indiens, ça fourmille un peu de partout. Et là, dans une toute petite rue, on a cette grande mosquée blanche, très jolie, avec des palmiers devant. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si c'était déjà comme ça à l'époque, si elle était déjà aussi belle.
Elle
était beaucoup plus petite. Ils l'ont agrandie, vous savez. C'est ici que Gandhi a lancé son mouvement, en 1906. Il y avait en effet des lois discriminatoires qui affectaient les Indiens et les Chinois en Afrique du Sud. Ces derniers subissaient une oppression commune qui se matérialisait sous la forme de lois anti-asiatiques. Ces lois obligeaient notamment les gens à être en possession de documents d'immatriculation. Tous les Indiens et tous les Chinois étaient obligés d'avoir ces documents et avaient pour obligation, sur demande, de les présenter à la police. Pour avoir ce document, ils devaient s'enregistrer en donnant leurs empreintes digitales. Les concernés avaient l'impression d'être fichés comme des criminels. Et là où nous sommes maintenant, le 16 août 1908, Gandhi a organisé une grande manifestation qui a rassemblé environ 3000 personnes. Presque tous les Indiens et aussi les Chinois, qui à l'époque formaient une petite communauté, sont venus ici, ont pris leurs documents d'immatriculation et les ont jetés dans un grand chaudron. Et tout a brûlé pour faire un grand feu. C'était inédit. Rien de semblable n'avait jamais été vu auparavant. Ce jour-là, environ 1200 personnes ont brûlé leurs passes, leurs documents. Les gens sont revenus la semaine d'après. On dit que la foule était encore plus nombreuse et ils ont brûlé 500 documents supplémentaires.
Oui, parce que juste en face de la mosquée, on a un petit monument, un chaudron noir qui est assez grand et au-dessus de ce chaudron, il y a le mot « truth », vérité, qui sort de ce chaudron. Donc le mot « truth » est écrit en blanc sur un grand écriteau noir. C'est pour rappeler ce moment où tout a été brûlé par Gandhi et ses camarades.
C'est conçu pour bouger, vous voyez, ça tourne.
Ah oui, il tourne. En fait, on peut, grâce à la roue qui se trouve juste en dessous du chaudron, si on la tourne, eh ben, toute l'œuvre tourne.
Cette œuvre a été créée par une artiste indienne locale qui s'appelle Usha Sijarin.
Cette mosquée et ce monument, c'est aussi un symbole de la façon dont Gandhi a réussi à réunir des musulmans, des hindous, des indiens et des chinois de différentes confessions et de différentes castes. Et c'était un exploit parce qu'avant, ils étaient très divisés.
Réunir et réconcilier les hindous et les musulmans, ce n'était même pas possible d'accomplir cette unité en Inde à l'époque. Mais ici, à l'endroit où nous sommes, on a réussi à créer l'image d'une grande nation indienne unie. Aujourd'hui encore, vous trouverez des divisions entre certains de ces groupes. Mais ils ont été capables de se rassembler pour devenir une force de combat très puissante.
La première étape vers notre nouveau statut sera l'élimination de cette discrimination.
Voilà, ça c'est un autre extrait du film Gandhi de Richard Attenborough, réalisé en 1982, un extrait qui rappelle justement cet épisode où Gandhi et les manifestants brûlent leur passe. Oui, parce que à partir d'août 1908, Gandhi, après avoir donc organisé la plus massive des campagnes de désobéissance civile, brûlé des passes, uni indiens et chinois, hindous et musulmans, Gandhi qui sans violence parvient à créer tant de troubles est jeté en prison. On le retrouve là-bas, dans 3 minutes, juste après les infos sur RFI.
Si loin, si proche.
Gandhi led a campaign to extract salt from ocean water instead of buying it with tax from the British.
Le magazine des voyages.
Gandhi, le petit avocat de Bombay, puis de Johannesburg, qui consacra sa vie à démontrer que l'on pouvait vaincre son ennemi à force de l'aimer.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Moi, je me considère comme un soldat de la paix.
Dit Mahatma Gandhi.
Julien Magoharu, Vladimir Cagnolari.
Soldat de la paix, apôtre de la non-violence, défenseur des pauvres et pourfendeur des castes et des classes, tout cela, Mohandas Gandhi ne le serait sans doute jamais devenu sans sa jeunesse sud-africaine et les 21 années d'expérience acquises là-bas, c'était entre 1893 et 1914. Et ça tombe bien, dans ces mois si proches aujourd'hui, on revient justement sur les chemins de Gandhi, le sud-africain. À Johannesburg, il se dresse contre les lois discriminatoires qui font des Indiens des citoyens de seconde zone et l'expérience, eh bien, comme souvent celle des révolutionnaires, passe aussi par la case prison. Celle où Cyriel Bédou nous emmène maintenant, un ancien fort, est la plus ancienne de Johannesburg. Des années plus tard, on y jettera aussi un certain Nelson Mandela.
Mon nom est Kaoressa Kolenbaloi. Je suis guide touristique et historien ici à Constitutional Hill. Cet endroit était une prison qui a été reconvertie et qui est désormais la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud. Alors pourquoi a-t-on transformé cette prison en Cour constitutionnelle? Eh bien simplement parce qu'on voulait mettre en avant notre exceptionnelle transition de l'Afrique du Sud de l'apartheid à une Afrique du Sud démocratique. C'est pourquoi la Cour a été déménagée ici.
Hence, the court was brought in.
Quand est-ce que la prison a été fermée?
The prison was closed in
La prison a été fermée en 1983 en raison du danger sanitaire, de l'insalubrité et de la surpopulation aussi. La première prison à avoir été construite était une prison pour hommes blancs qui était appelée le Vieux Fort. La deuxième structure est ce bâtiment rouge ici, c'est la section des hommes noirs appelée également Number 4 ou numéro 4.
Which was known as Number 4.
Un des plus célèbres prisonniers noirs à avoir été enfermé dans cette section est Mahatma Gandhi. Ce n'est d'ailleurs pas le seul prisonnier noir connu à être resté ici. Gandhi est resté dans la section numéro 4 pendant 19 jours en 1908. Il avait été condamné à 2 mois de prison, mais comme il était avocat, il a pu négocier et sortir plus tôt. Noir était un mot générique qui incluait les Indiens, les colored ou métis, les Asiatiques et les Africains. Plus tard, les Asiatiques ont une exemption et ont été connus sous l'appellation de blancs honoraires en raison de leur peau claire et de leurs cheveux lisses. Ils ont donc été considérés presque comme des blancs. Maintenant, suivez-moi, nous allons nous diriger vers le bâtiment numéro 4 pour voir comment les gens survivaient derrière ces murs.
Je vous suis.
Alors ici, nous sommes dans les cellules d'isolement. Envoyer quelqu'un là-bas, c'était la punition la plus sévère. La taille de ces cellules est de 3 mètres de long, 3 mètres de haut et 1 mètre de large. Dans cette pièce, on ne peut même pas étendre ses bras dans la largeur, c'est impossible. Si vous étiez claustrophobe, vous ne pouviez pas survivre une semaine ici. Regardez, vous voyez ces interrupteurs, ils sont placés à l'extérieur de la cellule. La lumière était utilisée pour désorienter les prisonniers et les perturber. C'est notre hymne national qui s'appelle « Dieu bénisse l'Afrique ».
Dans les vidéos qu'on voit où il y a des témoignages, c'est surtout des Noirs qui parlent de ce qu'ils ont vécu dans la prison, mais il y avait aussi des Indiens qui étaient dans cette section et qui vivaient les mêmes choses.
Oui, tout à fait. Mais le traitement des prisonniers à l'époque de Gandhi n'était pas le même qu'à l'époque de Mandela. Tous les deux n'ont pas vécu les mêmes choses ici. Quand Gandhi était ici, il n'y avait pas de loi comme la loi sur la sécurité intérieure ou la loi sur le terrorisme. Des lois qui pouvaient mener les prisonniers tout droit vers les cellules d'isolement. Gandhi n'a jamais été en cellule d'isolement. Par contre, sous l'apartheid, les Indiens engagés aux côtés de l'ANC avaient droit au même régime que les Noirs. Donc, le mot « noir » incluait tous les noms européens. Quand il s'agissait de politique, que l'on soit noir ou blanc, on était considéré comme un danger pour le système et on subissait le traitement le plus dur et le plus sévère en prison.
Entre Entre 1906 et 1908, non seulement Gandhi se bat contre les passes et les autres mesures discriminatoires à l'encontre de sa communauté, mais il pose aussi les bases de sa philosophie politique et de sa méthode. La résistance passive, mais qu'il a préféré baptiser lui-même Satyagraha, un terme sanskrit qui signifie la force ou l'attachement à la vérité. Ses principes, il les consigne même par écrit, dans une résidence qu'il partage avec l'architecte allemand Kallenbach dans la banlieue de Johannesburg, à l'abri du tumulte. L'endroit s'appelle le Kraal et il a été reconverti en maison d'hôte par la compagnie française Voyageurs du Monde qui y accueille aujourd'hui des touristes, en particulier français, dans un lieu historique où plane le fantôme de Gandhi. On peut y lire son abondante correspondance avec son ami Kallenbach, mais aussi y voir ses photos de famille, le tout dans une atmosphère épurée. Et c'est Edna Oberholzer qui gère aujourd'hui cette maison-musée.
La maison Satyagraha est le seul musée qui témoigne du mouvement de résistance du Mahatma Gandhi. Sa mission est de continuer à faire connaître le concept de résistance passive. Mais à l'origine, cette maison appartenait à Hermann Kallenbach, un architecte juif allemand qui est venu vivre en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle.
Ici, on est dans le jardin et on voit cette maison. Il y a énormément d'arbres, c'est très verdoyant et on voit cette maison qui s'appelait The Kraal.
En Afrique du Sud, Kraal a deux significations. C'est d'une part un enclos où on met les animaux, mais c'est aussi le nom de l'habitation des gens qui vivent à la campagne, et spécialement dans la région du KwaZulu-Natal. Ces habitations sont des sortes de huttes rondes qui fascinaient beaucoup Kallenbach.
Alors son but, c'était un peu d'avoir un mélange entre la culture africaine avec ce kraal qui ressemble à une hutte africaine et la culture européenne. Pourquoi est-ce que Kallenbach et Gandhi ont décidé de vivre ici, dans cette maison, ensemble?
Gandhi a rencontré Kallenbach à Johannesburg, dans un endroit qui s'appelait le Bright Light Café. C'était un club pour gentlemen, où ils parlaient de philosophie. C'était des gentlemen, ils étaient avocats, architectes, et ils se sont rencontrés pour la première fois dans cet endroit. La relation entre Gandhi et Kallenbach était une amitié très spéciale. Ils s'appréciaient beaucoup l'un l'autre. À l'époque, beaucoup des lois abrogées avaient des impacts très forts sur la population sud-africaine. Et Gandhi a travaillé très dur pour mettre en place ce concept de résistance passive. Quand ils sont venus vivre dans cette maison, Gandhi a pris le temps d'écrire et formuler clairement les principes du mouvement de la Satyagraha. N'oublions pas que c'est aussi dans cette maison que la toute première biographie de Gandhi a été écrite.
Quand il était ici.
Oui, elle a été écrite par le révérend Joseph Dock. On peut donc voir cet endroit comme une sorte de retraite pour écrivains.
Le jardin est très paisible. Il y a donc beaucoup d'arbres. Il y a une table avec des chaises. C'est quelque chose de très spartiate, très simple. C'est aussi une maison d'hôtes ici.
Oui, notre maison d'hôte respecte la philosophie de Gandhi. Par exemple, quand Gandhi vivait ici, il aimait dormir dans le loft, sans rideaux ni portes. Tous les rideaux de nos fenêtres sont donc très légers, de façon à ce que l'on puisse se réveiller avec le lever du soleil le matin. Il n'y a pas de télévision ici. Nous ne servons pas d'alcool ni de viande.
L'idée, c'était de faire de cette maison d'hôte et de ce musée un endroit que même aujourd'hui, Gandhi aurait approuvé. Bonjour, je vais vous déranger un petit peu. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette maison ici, la Satyagraha House, qui est une maison assez particulière dans la vie de Gandhi?
d'être en quelque sorte dans les lieux de l'héritage de la libération de tout un peuple et de toute une nation, c'est vraiment une émotion particulière.
Vous la connaissiez, cette histoire de Gandhi en Afrique du Sud ?
Je la connaissais par l'intermédiaire d'amis qui sont déjà venus ici et qui m'avaient raconté leur expérience. Et puis, de manière plus triviale, j'avais vu le film Gandhi, dont on voit au début son aventure ici en Afrique du Sud.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette maison ?
Je dirais que c'est la synesthésie. Tous les sens sont éveillés, que ce soit l'odorat, l'ouïe, le toucher. Tout est vraiment fait pour qu'on se sente en communion avec la nature. Donc je pense que c'est un petit peu un paradis, non pas artificiel, mais naturel, dans lequel se détendre et puis venir puiser de l'énergie positive.
Johannesburg, toujours. Retour à Constitution Hill, dans l'ancienne prison où fut enfermé Gandhi avant Mandela.
Ici, on a une exposition qui s'appelle Mandela Gandhi. Elle fait le parallèle entre les vies de Nelson Mandela et du Mahatma Gandhi. Parce qu'il se dit en effet qu'ils ont connu des parcours similaires en Afrique du Sud et en général.
Donc là, on entre dans la pièce où on peut voir le début de l'exposition. Et on voit des pancartes avec des belles photos de Mandela et Gandhi. On les voit très jeunes et à la fin très vieux.
Gandhi est arrivé en Afrique du Sud en 1893, à l'âge de 24 ans. Il a passé 21 années de sa vie en Afrique du Sud. Il est arrivé ici en tant qu'avocat. Et quand il a quitté l'Afrique du Sud, il était devenu philanthrope, humaniste. Gandhi a utilisé l'Afrique du Sud comme terrain d'essai pour ses stratégies politiques. Quand il a réalisé que ses méthodes étaient efficaces et qu'elles fonctionnaient, il est allé en Inde pour les appliquer et se battre contre les colons anglais.
Est-ce que Gandhi est aussi connu par les Sud-Africains ?
Même les plus jeunes enfants d'Afrique du Sud connaissent le Mahatma Gandhi. Certains peuvent se tromper en l'appelant Mohamed Gandhi par erreur, mais ils connaissent Gandhi et il est même dans certains programmes scolaires.
C'est intéressant ce parallèle entre la vie de Gandhi et de Nelson Mandela, parce que pourtant aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques qui disent que de son temps Gandhi était assez raciste des Noirs.
Gandhi était un jeune homme quand il est arrivé en Afrique du Sud. Alors, à un moment, il a été un peu perdu. Il a défendu uniquement la cause des Indiens. Mais en faisant cela, il a mis en péril la cause des Africains. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'accuser de racisme envers les Noirs. À un moment donné, il a par exemple défendu la cause des Indiens en Grande-Bretagne auprès du Premier ministre Neville Chamberlain, en disant que les Africains ne seraient jamais les égaux des Indiens et que les Indiens devraient donc être mieux traités que les Africains. Ce n'est pas très humain comme déclaration venant d'un humaniste, mais ces erreurs l'ont par la suite poussé à grandir en tant qu'individu. Quand il a commencé le mouvement Satyagraha de résistance passive en Afrique du Sud, il a inclus des gens très différents. Il y avait des Chinois et d'autres Asiatiques, des musulmans, des Hindous, des Métis et des Africains qui étaient impliqués dans ce mouvement. C'était un être humain, il a fait des erreurs. Et c'est la principale erreur que nous faisons, nous. On glorifie nos leaders et on oublie de les rendre humains. On oublie que ce sont des gens.
Et Mandela a un peu excusé à un moment donné Gandhi pour ce qu'il a dit envers les Noirs.
Les plus grands hommes sont ceux qui reconnaissent leurs erreurs et tentent de les réparer. Ceux qui prennent la responsabilité de leurs fautes. Et Gandhi a fait cela quand il a créé le mouvement Satyagraha et qu'il y a inclus tous ceux qui étaient opprimés par le système en place à l'époque. C'est pour ça que Mandela a pu pardonner Gandhi. Quand Mandela est sorti de prison, il a fait un discours dans lequel il disait « Je me tiens devant vous, le peuple, non comme un saint, mais comme votre serviteur à vous, le peuple. Ne me glorifiez pas, ne me mettez pas sur un piédestal, mais reconnaissez-vous en moi et en mes combats en tant que personne. » Vous vous souvenez quand il a dit
« I have fought against white domination. »
Vous imitez bien Nelson Mandela.
Well, I try.
Stimela, si ambanga malade, si vele, talapu, bala.
ngilahla kwaguqa bathi sizohumba malahla
Stimela, Yum Masekela sur RFI, une chanson qui rappelle la mémoire du train à vapeur, celui qui convoyait les Zoulous vers les mines d'or de la région de Johannesburg et celui aussi qui ramena Gandhi dans la région de Durban, le Natal. On l'a entendu, Gandhi a d'abord milité pour les droits des Indiens et en particulier pour qu'on ne range pas ces Indiens-là dans la catégorie Black, les Africains, que lui estimait inférieurs à ses compatriotes indiens. Il se prononce aussi et s'engage contre la révolte Zoulou de Bambata en 1905. Mais l'Afrique du Sud, avec ses clivages aussi racistes qu'absurdes, l'a certainement poussé peu à peu à une prise de conscience plus globale et à se départir de ses premiers préjugés racistes. Convaincu que la lutte est aussi une discipline individuelle, une autonomie et une recherche d'harmonie, il fonde son premier ashram, une communauté autosuffisante dans la région de Durban. Son nom, la colonie Phoenix.
Cet endroit a marqué un tournant décisif dans la vie de Gandhi. Ici, il a été question d'éducation, d'autosuffisance et de politique. C'est ici qu'il a créé la première colonie non raciale et qu'il a appris aux gens à avoir un état d'esprit qui les rende capables de suivre ses préceptes.
Et l'idée, c'était que tout le monde vivait ensemble en communauté et que tout le monde travaillait de la même façon pour faire vivre ce ashram.
C'est vrai ce que vous dites. Et Gandhi, en venant ici, voulait aussi rencontrer des leaders africains. L'un d'entre eux était John Dubé, qui fut le premier président de l'ANC, le Congrès national africain.
Qui vivait près d'ici.
Oui, à 2 kilomètres d'ici. Gandhi avait fondé le Congrès indien du Natal, qui a été le premier mouvement de libération du pays. C'est bien avant la création de l'ANC, il était donc précurseur en la matière. Gandhi fonda un journal qui s'appelait Indian Opinion, ou l'opinion indienne. Il était imprimé en 4 langues, le Gujarati, l'Hindi, le Tamoul et l'anglais. Il était diffusé dans toute l'Afrique du Sud et en Inde aussi. L'imprimerie du journal se trouvait ici, à l'entrée de la colonie. Plus tard, un des fils de Gandhi, Manilal, a déplacé l'imprimerie dans le bâtiment juste là. Et cette maison ici, c'est Manilal qui l'a construite. Gandhi avait 4 garçons, Harilal, Manilal, Remdas et Devdas. Ils étaient tous nés en Inde et ils sont venus ici avec leur mère Kastuba, la femme de Gandhi.
Et la Gandhi, vous êtes la petite fille de Mohandas Gandhi. Vous êtes née ici en Afrique du Sud, vous êtes née en 1940 dans la région de Durban. Plus particulièrement dans ce ashram, quel souvenir avez-vous de cette enfance à la colonie Phoenix ?
C'est un grand privilège d'être née là-bas et d'avoir grandi dans cet ashram. Mon père, Manilal, a été le seul fils de Gandhiji qui a perpétué le travail de son père, après qu'il a quitté l'Afrique du Sud pour l'Inde en 1914. Le fonctionnement de cet ashram suivait donc les préceptes de Gandhi. Et en grandissant là-bas, on a appris à accepter les gens, indépendamment de leur religion, de leur classe sociale ou de leur caste. Notre colonie était complètement ouverte. Tout le monde pouvait entrer et sortir comme bon lui semblait. La colonie Phoenix est un symbole de la façon dont Gandhi a changé quand il était en Afrique du Sud. Si vous y allez, vous vous en rendrez compte, comment le jeune Gandhi est arrivé en Afrique du Sud avec d'autres idées, un autre regard sur le monde, et comment quand il a démarré cet endroit en 1904, il y a eu un changement dans sa personnalité.
Quels sont les principaux changements selon vous ?
Tout d'abord, alors qu'il avait une très belle maison au centre de Durban et qu'il fréquentait des avocats, il abandonna tout cela pour s'installer à Phoenix, qui était alors en pleine brousse. Il fallait vivre sans aucune infrastructure, en allant chercher son eau ou en recueillant des eaux de pluie.
Gandhi read a book.
written by John Ruskin.
Unto the Last.
Gandhi avait lu le livre Unto This Last de John Ruskin et il l'avait traduit en Gujarati sous le nom de Savudaya, ça veut dire le bien-être pour chacun. Et quand il a construit cette maison, il l'a appelée Savudaya. Malheureusement, elle a été incendiée.
In the 70s, because of the government's laws.
Dans les années 70, à cause des lois adoptées par le gouvernement de ce pays, il y eut un afflux massif de population ici, et les gens s'installaient sur la moindre terre disponible. C'est ainsi que la colonie de Phoenix a été envahie. Plus tard, il fut voté que les maisons du township voisin reviendraient aux Indiens. Et là, il y avait tout. De l'eau, des routes, de l'électricité, une école. Alors que de l'autre côté de la route, dans le quartier africain, il n'y avait aucun développement, rien du tout. Les Noirs voyaient que juste en face, les Indiens, eux, avaient tout. Et le ressentiment contre la communauté indienne s'installa. Finalement, toute la colonie fut brûlée en 1985.
The whole Phoenix settlement was burnt down in 85.
Par la communauté africaine?
There was no inquiry.
Il n'y a pas eu d'enquête, donc je ne peux pas dire avec certitude qui étaient les responsables, mais beaucoup de gens ont dit que c'était des soldats.
People said that these were like soldiers from the armies.
Donc la maison de Gandhi a été incendiée, la maison de Manilal a été occupée et l'école construite en 1954 par son fils a également été brûlée. Ces deux bâtiments-là, eux, ont été pillés en 1985.
Donc ça, c'était sa maison, qui est une maison assez simple. À l'extérieur, elle est verte, claire. Il y a un petit écriteau où il y a marqué « Sarvodaya ». Ça parle de la reconstruction de cette maison après qu'elle ait été détruite.
Oui, c'est une réplique.
Allons-y. Alors, on est à l'intérieur de la maison qui a été reconstruite. Donc, on a sur les murs une photo de Mandela. Sur le côté, une photo de Martin Luther King. Ensuite, une photo de Gandhi.
Avant qu'il ne devienne le Mahatma.
Et là, on est dans une autre pièce, la pièce principale de la maison, où il y a donc des photos de Gandhi qui sont imprimées sur des voiles qui flottent au vent. Et il y en a une d'entre elles où il est vieux avec des lunettes, l'image de lui qu'on connaît le plus. Et derrière, il y a une fenêtre qui est cassée.
Ça, c'est arrivé récemment. Il y a eu du vandalisme ici. Il n'y avait pas de surveillance. Et ceux qui sont venus ont juste enjambé la barrière d'enceinte, cassé la fenêtre, mais ils n'ont rien volé.
But they never took anything.
Mais les gens connaissent la valeur et l'héritage de cette maison. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils auraient voulu voler des choses?
People who came here, they knew that.
Les gens qui sont venus ici savaient que ce terrain appartient toujours à Gandhi. Vous savez, l'esprit de l'apartheid s'était divisé pour régner et les Indiens avaient de meilleures chances que nous, les Noirs. Mais ce que nous devons faire, c'est bâtir ensemble la nouvelle Afrique du Sud.
The new South Africa.
Du coup, pour certains Noirs sud-africains, ce lieu est un peu le symbole du ressentiment qu'ils ont envers la communauté indienne.
Oui, moi je travaille ici depuis de longues années et mes frères africains ne l'ont jamais accepté. Car ils pensent que je soutiens les Indiens. Mais tous ceux qui ne veulent pas venir visiter la maison de Gandhi au prétexte que c'était un Indien, quand ils viennent ici, ils découvrent la vérité. Cet endroit n'appartient pas aux Indiens, il appartient au monde entier.
Là, on est dans votre appartement et sur les murs, il y a beaucoup de photos de votre grand-père, des photos où il est âgé. Il y a un buste aussi ici. Est-ce que vous l'aviez connu, vous, votre grand-père? Il est mort quand vous aviez environ 8 ans.
Je n'ai qu'une photo où je suis avec lui. Elle est là-bas, sur le mur.
Ok. Alors là, on va voir la photo. Alors dans le hall, this one, celle-ci.
Il était assis sur une marche, les jambes croisées, et moi je suis debout devant lui, une enfant de 7 ans.
C'était en Inde?
Oui, c'était en Inde, dans son ashram, là où il vivait. On était habillés de blanc et les tissus étaient entièrement faits à la main, nous les avions tissés nous-mêmes.
and woven.
C'est très important cette photo pour moi.
It is. It's very special. I really admired my grandfather.
J'admirais vraiment mon grand-père. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tant de violence, tant d'inégalités, tant de conflits dans le monde que les idées de Gandhi sont plus utiles que jamais. J'ai consacré ma vie à les faire connaître.
Ella Gandhi vit toujours du côté de Durban, héritière de cette histoire du Mahatma en terre sud-africaine. L'Afrique du Sud, donc, a changé Gandhi et lui a donné les armes non-violentes qui feront de lui la grande âme tant révérée aujourd'hui, en particulier en Inde où son anniversaire, le 2 octobre, est jour férié. Mais si l'Afrique du Sud a changé Gandhi, Gandhi lui aussi a changé l'Afrique du Sud. La désobéissance civile, le refus d'obéir aux lois injustes vont inspirer bientôt les méthodes de lutte de l'ANC, qui organisera elle aussi de vastes campagnes comparables à celles de Gandhi. Son influence est mondiale. On la retrouve chez Martin Luther King, dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, dans le discours de Thomas Sankara aussi et de bien d'autres dirigeants du tiers-monde qui s'inspirèrent du Mahatma. Si vous aussi, vous voulez partir sur les traces de Gandhi, de Durban à Johannesburg en passant par Pietermaritzburg, eh bien on vous a mis les liens utiles sur la page de Si Loin Si Proche, sur le site RFI.fr évidemment, histoire de refaire si vous voulez le périple proposé aujourd'hui par Cyrielle Bédou. Merci à elle pour ce reportage, merci aussi à tous ceux qui nous ont prêté leur voix pour les traductions, et merci enfin à Julien Maguaro pour la réalisation de cette émission. Une émission réalisée avec le concours de l'Office du Tourisme d'Afrique du Sud. Si loin, si proche, c'est fini pour aujourd'hui. Passez un très très bon week-end sur RFI. Salut!